Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Entre les âges, émission présentée par François-Xavier Poisa. C'est une émission qui parle de musique classique et de musiques avoisinantes et surtout qui parle de liens intergénérationnels qui peuvent se créer et prospérer dans ces musiques. Alors pour notre toute première édition, j'ai l'immense plaisir de recevoir comme invité le violoniste Marc Crofts. Alors Marc Crofts, vous avez 31 ans, vous êtes violoniste, vous avez de nombreuses casquettes et surtout vous jouez de nombreux styles de musique différents et vous êtes là avec nous aujourd'hui pour nous présenter votre prochain CD qui s'intitule Carousel, fait avec l'ensemble Nomadim. Et ce CD sortira le 5 mars chez Unit Records. Alors ce Nomadim, c'est un trio avec vous-même au violon, avec Railo Helmstetter, un guitariste manouche, et Blaise Hommage à la contrebasse. Alors, bonjour Marc Crofts.
Bonjour.
Et dites-nous tout de suite, pourquoi est-ce que vous avez appelé votre ensemble Nomadim? Moi j'entends tout de suite Nomade.
Tout à fait. Le mot nomadim, c'est une construction avec le radical nomade et on a mis im à la fin parce que ça fait un pluriel hébraïsant. Donc ça, c'était pour parler de la nature vagabonde de la musique qu'on interprète. C'est-à-dire qu'il y a des influences qui viennent de différents endroits et de différents types de musique. Et puis, évidemment, on voulait parler du voyage qui est celui que nous, on vit quand on est en train de jouer. On espère que les auditeurs voyagent aussi avec nous quand ils nous écoutent. Et puis, il y a simplement aussi nos origines. On veut parler aussi de la diaspora et puis du fait qu'on aime voyager.
Donc, vous faites une musique qui fait voyager, quoi, avec des musiques voyageuses.
Voilà, c'est un peu ça. Donc, le voyage métaphorique et bien réel, qui a été celui de nos ancêtres, puisque Railo est d'origine manouche et moi, j'ai des origines juives et aussi anglaises et très mélangées. Donc, voilà, il y a tout ce voyage-là. Et puis ensuite, nous, on a voyagé aussi. C'est aussi comme ça qu'on a développé nos styles respectifs avec les instruments. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai passé pas mal de temps en Europe de l'Est. Et ça m'a permis de glaner quelques trucs et astuces et puis quelques influences que j'essaye de reproduire dans mon jeu. Et puis, ben voilà, j'ai aussi toujours écouté des musiques de plein d'endroits différents quand j'étais enfant. Et puis ça, c'est probablement quelque chose qui s'entend dans mon jeu. Voilà.
Donc c'est dans vos voyages que vous vous inspirez beaucoup, en tout cas, pour votre musique?
Oui, alors sur le plan purement musical, effectivement, voilà, j'ai pris des cours avec des gens en Europe de l'Est, en Espagne, etc. Et puis ensuite, il y a simplement l'inspiration du moment du voyage. Et dans certaines compos, je parle de ça. Mais il y a d'autres thèmes aussi qui sont abordés.
Alors, ce CD Carousel, pourquoi est-ce que vous l'avez appelé Carousel?
En fait, c'est une erreur de votre part. Le CD s'appelle pas Carousel. Carousel, c'est le nom du premier single qui est déjà paru. Et puis, c'est le nom d'un morceau qui parle d'un carousel, tout simplement. Donc là, finalement, le voyage, c'est pas le sujet de ce morceau-là. Le nom du CD, c'est le nom du groupe, c'est éponyme, ça s'appelle Nomadim aussi. Voilà.
Alors, on écoute tout de suite un extrait de ce CD. Vous avez choisi un morceau qui s'appelle Zaza. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? C'est qui ce Zaza?
Zaza, donc, c'était un gars qui conduisait une voiture quand je suis allé en Géorgie. Et puis, je trouvais le nom sympathique. Et puis, c'est un moment où j'avais dans la tête plein de mélodies d'Europe de l'Est, et notamment des mélodies tziganes. Donc, c'est un peu de ça que je me suis inspiré pour écrire ce titre. Et je trouvais que Zaza, ça résonnait bien avec ces influences-là.
Et il le sait, ce gars, que vous avez fait une...
Ben non, il le sait pas, je l'ai jamais retrouvé. Voilà, j'étais dans sa voiture, j'ai joué du violon dans sa voiture avec la radio, on a bien rigolé. Et puis, c'était un moment particulier parce qu'il parlait pas ni anglais ni français, donc on communiquait en faisant des signes, et avec des bouts de mots en d'autres langues qu'on connaissait. Et puis, voilà, et avec la musique, justement, quand il a mis la radio, j'ai copié avec le violon, et puis ça lui a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il avait un beau regard, et non, voilà, je le sais absolument pas. Hein.
Eh bien, de cette belle rencontre spontanée, nous écoutons tout de suite le morceau qui a été inspiré, donc Zaza, du CD Nomadim. On écoute. Alors, c'était un morceau qui s'appelle Zaza du CD Nomadim, de l'ensemble Nomadim, avec Mark Croft, violoniste, qui est notre invité aujourd'hui. Alors, quand on écoute cette musique, je crois comprendre qu'il y a une partie qui est composée, mais il y a aussi une partie improvisée.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'improvisation parce que finalement, structurellement, ça reste du jazz. Alors, même s'il y a beaucoup d'influence, notre façon de fonctionner, elle est largement tributaire de la tradition du jazz. Dans le morceau Zaza, en l'occurrence, il y a un thème, puis de l'improvisation, et puis un thème de fin. Donc ça, c'est assez traditionnel, l'improvisation, et même sur les accords du thème. Ça, c'est exactement la structure d'un morceau de jazz. Il y a d'autres morceaux qui sont structurés différemment, et il y a parfois de l'impro plus libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément faite sur des accords, mais par exemple avec un thème, une image qu'on se donne, et puis on se laisse libre cours à notre imagination.
Mark Croft, vous êtes un des très rares violonistes à être aussi à l'aise dans la composition que dans l'improvisation. Et moi qui viens de la musique classique, alors je brûle de vous poser la question. Quelle est la différence selon vous entre composer une partition classique qui ne permettrait aucune improvisation et composer un morceau, comme vous dites, dans le style du jazz par exemple, où justement le morceau, la mélodie, les harmonies sont composées, mais on laisse une grande part pour l'improvisation, surtout l'improvisation en groupe?
Ben, je pense que vous l'avez bien dit, il y a moins de liberté dans une partition classique typique, encore qu'aujourd'hui, la musique classique contemporaine utilise plein d'autres types de notations qui parfois laissent plus de liberté à l'interprète. Ensuite, je crois que la notation classique, elle a évolué. Donc, au final, à l'époque de Bartou, n'est pas noté. Et puis ensuite, vers le début du XXe siècle, on arrive à des partitions qui sont extrêmement notées. Aujourd'hui, je crois que la norme dans l'édition, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est de vraiment mettre toutes les informations sur le papier pour l'interprète, de sorte que quelqu'un qui est formé à la musique classique puisse interpréter sans que le compositeur soit là ou lui dise quoi que ce soit. Donc finalement, l'implicite dans une partition, c'est quelque chose qui existe aussi dans la musique classique. Et puis voilà, cet implicite-là, il permet au compositeur de donner en fait une information qui est sur ça, l'interprète doit être libre, sur tel ou tel aspect. Donc, pour ma part, j'écris parfois de façon très jazzistique avec des choses, des informations très lacunaires pour justement laisser les interprètes libres de mettre leurs pattes. Et puis, d'autres fois, je suis extrêmement précis. Alors voilà, je suis pas forcément toujours les normes du monde de l'édition classique aujourd'hui dans mes partitions, mais le degré de liberté que je laisse à l'interprète est souvent plus grand que dans la musique classique. Après, faut voir aussi que là, j'écris pour des gens spécifiques, à savoir Rilo et Blaise. Je sais comment eux ils jouent et il y a des choses que j'ai envie de les entendre faire. Donc, je vais leur laisser des espaces de liberté en fonction de ce que je sais de leur jeu. Ça, il y a un nom pour ça. Ça s'appelle Ellingtonisme, je crois, parce que Duke Ellington, il écrivait pour des musiciens précis dans son big band, ce qui fait que ses arrangements sonnent pas très bien quand c'est d'autres musiciens qui les jouent. Contrairement aux arrangements, par exemple, de Count Basie, qui sont très très robustes et qui supportent très bien qu'on change de musicien. Donc voilà, moi je fais ça là. J'écris pour des gens spécifiques. C'est pas toujours le cas.
Pour revenir à ce que vous disiez au début, est-ce qu'on peut dire que paradoxalement, votre façon de composer cette musique si actuelle, si spontanée, avec de l'improvisation, est plus proche de, par exemple, la musique baroque que de la musique classique moderne comme on la compose aujourd'hui?
Ouais, je pense que c'est absolument vrai. Et puis, en fait, on parlait tout à l'heure de l'implicite qu'il peut y avoir dans une partition. Et cet implicite, il est tributaire de la formation des musiciens et de leur background. Donc, c'est vrai qu'un instrumentiste baroque, à la lecture d'une partition, savait comment l'ornementer parce qu'il était, il avait tout ce bagage musical. Et je crois que les jazzmen, c'est exactement pareil. Quand ils voient un certain type de notation, ils savent comment interpréter ce type de notation. Donc, l'information, elle n'est pas sur le papier, mais elle est bien là.
Alors, un des grands instruments du baroque, c'est évidemment le violon. Hein, mais vous, justement, avec ce que vous faites, vous démontrez que le violon est peut-être utilisé pour beaucoup de musiques très différentes. Mmh. Alors, on écoute tout de suite un morceau de flamenco qui s'appelle Bulería. C'est avec votre duo de violonistes falsettas, c'est bien ça?
Tout à fait. Alors ça, c'est un tout nouveau projet qui va être créé mi-avril en France, avec le violoniste et compositeur également Yardani Torres Mayani. Donc lui, il vient de la musique classique et du flamenco. Et puis, on s'est posé toutes ces questions justement de notation, c'est au cœur de ce projet, parce que là, on a pour but aussi de transmettre ces partitions. Et Bulería, c'est le style dans le flamenco de ce morceau. Voilà, donc ça va pas, c'est pas un titre très spécifique. C'est comme si j'avais appelé un morceau swing, par exemple, ou pop. Voilà, en gros, c'est ça, Bouléria, avec deux violons.
Alors on écoute Bouléria dans le style Bouléria avec le duo de violonistes Falsettas.
Cité Genève.
C'était Bouléria du duo de violonistes Falsettas avec Marc Crofts qui est notre invité aujourd'hui. Marc Crofts, violoniste, qui est là pour nous présenter son nouveau CD Nomadim avec l'ensemble Nomadim qui est un trio. Et dans ce CD et dans toutes vos musiques en général, ce qui frappe le plus et ce qui vous rend aussi unique, Marc Crofts, c'est votre côté multiculturel, c'est la diversité des styles de musique que vous pratiquez au violon, et d'une façon tellement tellement excellente que qu'on se dit en écoutant ces styles de musique que le violon a toujours fait partie de cette musique-là. En tant que violoniste, quels sont les styles qui vous inspirent le plus?
Moi, j'ai travaillé le flamenco, je dirais ces dernières années. Donc ça, c'est un des styles qui m'occupe. Donc là, avec le duo Falsettas, et puis également avec d'autres ensembles, comme avec Yolanda Almodovar, la chanteuse, avec la danse, la guitare, etc., dans un contexte plus traditionnel. Et puis, depuis l'enfance, j'ai pas mal pratiqué le klezmer, et j'en joue encore aujourd'hui. J'ai aussi un autre projet que vous connaissez d'ailleurs, où on travaille des arrangements klezmer. Et puis, les musiques d'Europe de l'Est, en particulier la Bulgarie, et puis certaines choses roumaines, ça c'est aussi des styles que j'ai pas mal travaillé. Un peu de la musique turque, certaines choses orientales. J'ai un peu pratiqué le shabi aussi, c'est une musique algérienne populaire. Et puis, donc voilà, un peu les choses qui sont connexes avec ça, donc les choses arabo-andalouses. Voilà, aujourd'hui, commercialement, on parle de musique méditerranéenne, ce qui n'est pas toujours très, très logique. Mais voilà, c'est peut-être ça qu'il faudrait dire. Musique balkanique, musique méditerranéenne, c'est peut-être ça le plus. Après, j'ai aussi un petit peu pratiqué la musique celtique, que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je l'ai moins étudié, voilà, formellement. Je mettrais ça.
Et on se demande si vous reste à découvrir encore. Est-ce qu'il y a des styles que vous gardez pour l'avenir?
Ah bah il y a bien sûr des styles que ça me passionnerait d'étudier, mais je dois dire que le côté touche à tout, c'est à double tranchant parce que on peut finalement être un peu mauvais dans tous les styles qu'on travaille. Alors je crois que là je vais un peu freiner mes ardeurs de découverte, mais c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup, par exemple, de travailler la musique indienne, enfin la musique classique indienne, parce que voilà, ça c'est vraiment fascinant au plan rythmique. Et puis, il y a aussi la présence du violon dans cette musique, et un violon très, très particulier. Donc ça m'intéresse. Après, ben, la musique brésilienne, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup écoutée, peu pratiquée, un petit peu. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi développer si j'avais plus de temps.
Et est-ce que cette façon d'aller de la musique classique indienne jusqu'à la musique arabo-andalouse, en passant par la musique classique européenne, etc., est-ce que vous avez l'impression, peut-être le fantasme, qu'un jour, ça vous permettra de découvrir l'essence de la musique au niveau universel?
Mais non, parce que je crois pas à ça. On entend toujours la musique est un langage universel. Et puis, je pense que c'est complètement faux. Parce que, au reste, quand on va voir un concert de musique indienne, on entend la gamme au début du morceau. Puis là, on entend les notes. Alors, on comprend ce qui se passe. On trouve ça sympa. Puis ensuite, c'est 3 heures de variation rythmique sur une gamme. Puis là, le public occidental s'ennuie un peu. Au reste, les musiciens indiens, quand ils viennent en Europe, ils font des versions plus courtes. Donc, je pense pas vraiment que ce soit la réalité, que c'est universel. Il y a plein de codes, et puis nous, on a des codes qui sont dans nos oreilles, et puis il y a qu'à voir à quel point ces codes ont changé à travers l'histoire. Quelque chose qui nous paraît tout à fait normal aujourd'hui, comme le blues, c'est tellement intégré qu'on remarque même pas qu'il est présent dans toute la pop, pratiquement. C'est quelque chose qui est profondément dissonant pour Bar, par exemple. Donc, je pense que on a des acquis dans l'oreille, et on joue avec ça. Une autre musique qui m'influence beaucoup, évidemment, et dont j'ai pas parlé juste là, c'est le jazz. Donc ça, moi, j'ai fait le conservatoire en jazz, et donc j'ai beaucoup travaillé ça, le jazz manouche, mais aussi le jazz plus moderne, le bebop, et puis le jazz modal. Et puis, il y a un degré d'implicite qui est assez grand dans le jazz après le bebop. Et en fait, pour comprendre ce qui se passe, voilà, il faut connaître ces codes. Sinon, on entend juste des sons, on entend la pointe de l'iceberg, si on veut. Ce serait un peu comme écouter une conversation en hongrois sans parler hongrois et dire ah mais les conversations c'est universel. Oui, enfin, on voit des gens bouger, on entend des sons, ça oui, mais on comprend pas vraiment le sens.
Alors pour qu'on puisse savoir avec quelle langue il faut écouter votre prochain CD Nomadim, vous définiriez ce CD avec quel style? C'est du manouche, du jazz?
Je pense que c'est un mélange un peu de tous ces styles. Et puis, qu'on a mentionné, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de musique balkanique et de klezmer, il y a des éléments de jazz moderne, il y a des éléments de jazz manouche, il y a des éléments de musique classique. Je pense que aussi, il faut le dire, ce disque est assez accessible. On fait pas, même si c'est de la musique qui est composée actuellement, on fait pas de la musique qui est avec un degré d'implicite immense. Si on veut, il y a moins d'implicite dans ce que je fais que chez Herbie Hancock. Donc, je pense que ça reste relativement accessible et que les clés de lecture, les gens les ont déjà pour la plupart. Après, on acquiert aussi des clés de lecture très naturellement quand on est auditeur, juste en écoutant la musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'intellectualiser tout ça. À force d'écouter, le cerveau comprend. C'est ça la beauté de l'apprentissage humain.
Alors, sans plus intellectualiser, écoutons tout de suite Carousel de ce CD Nomadim avec Mark Croft. C'était Carousel du CD Nomadim avec Mark Croft, violoniste, qui est notre invité aujourd'hui. Alors Mark Croft, vous avez parlé de la musique klezmer juste avant. Est-ce que vous pouvez, parce que c'est souvent un thème assez flou pour certains, est-ce que vous pouvez décrire qu'est-ce que c'est que la musique klezmer?
Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser tout à l'heure. La musique klezmer, c'est la musique des Juifs d'Europe de l'Est, des Juifs ashkénazes. Donc ça s'étend de l'Ukraine à la Roumanie à peu près, à la Bessarabie, toute cette région-là, et du siècle passé. Puis ensuite, c'est une musique qui est renée aux États-Unis. Ces dernières années.
Alors voilà qui nous fait voyager. L'essence de cette émission, c'est l'intergénérationnel. Alors j'imagine que pour devenir un violoniste professionnel comme vous, qui plus est à l'aise dans de nombreux styles de musique différents, c'est beaucoup d'études et c'est surtout beaucoup de professeurs, de maîtres, de rencontres, de gens qui vous ont transmis un savoir, un patrimoine. Est-ce que vous voulez nous parler des mentors musicaux que vous avez eus qui vous ont le plus influencé?
Oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on en a rarement l'occasion. Quand j'étais enfant, j'ai travaillé avec Florin Moldaveanu, qui est un violoniste de l'ESR à Genève. Donc lui, il m'a influencé par sa personnalité et son jeu. Et voilà, il m'a appris un peu beaucoup de bases. Après, je l'ai un peu perdu de vue. Et puis quand j'étais au conservatoire, j'ai eu Christine Sorensen comme prof de violon. Et à elle, je lui dois énormément parce que c'est elle qui m'a vraiment appris comment fonctionne vraiment le violon. Profondément, et aujourd'hui je peux faire ce que j'ai envie de faire grâce à elle notamment, et c'est quelqu'un qui était très ouverte justement sur toutes les autres musiques, même si elle vient de la musique classique. Et puis ensuite j'ai eu des mentors, des gens que j'ai rencontrés plus temporairement. Il y a Kovács Ferenc qui s'appelle aussi Öcsi, qui est en Hongrie. J'ai travaillé avec Aydın Varol en Turquie, également Nedim Narbantolu, et puis j'ai un prof qui s'appelle Lidian Slavchev à Sofia. Et puis j'avais travaillé avec un timbaliste roumain qui s'appelle Fabian Andreescu, lui m'a montré pas mal de choses aussi. Mon collègue Gardani, avec qui je fais le duo Falsettas, m'a aussi beaucoup appris. Et puis ensuite simplement mes autres collègues, mes collègues du trio Railo et Blaise, ils me transmettent énormément quand je travaille avec eux. C'est vraiment au fil des rencontres. Et puis bien sûr, je dois dire les gens avec qui j'ai travaillé dans mon projet balkanique, Gilgul, Atanas Marinov et Ivailo Dimitrov, ils m'ont montré énormément de choses. C'est tous des gens à qui je dois beaucoup.
On peut dire que vous vous construisez musicalement au fil de ces rencontres?
Absolument, ouais, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que je tombe amoureux du jeu de quelqu'un, et puis ensuite, j'essaye de copier, je passe du temps avec, et je pose des questions. Et puis voilà, c'est vraiment l'art de copier, quoi.
Alors c'est comme ça que vous recevez donc la musique, les inspirations, et je crois savoir que vous êtes aussi professeur de violon. Comment est-ce que vous envisagez de transmettre tout ce savoir à ceux qui vont vous succéder?
C'est une question intéressante. Finalement, c'est une casquette de pédagogue que je dois mettre, et puis je pense pas pouvoir transmettre tout ça. Et puis il faut dire aussi que finalement, les syncrétismes de toutes ces choses-là, c'est ce qui me crée, et je copie les choses des autres, mais je les copie mal. Alors finalement, ça fait ce que je suis moi. Je souhaite pas à quelqu'un d'avoir exactement les mêmes influences que moi et les mêmes sources d'inspiration. Par contre, j'encourage les gens avec qui je travaille à justement chercher les leurs, qu'est-ce qui les fait vibrer. Et puis aujourd'hui, on est en train de créer autour du monde, et puis en particulier avec mon collègue Beiju Bhatt à Lausanne, des façons d'enseigner le violon. Il y a plein de gens qui ont fait ça avant nous. Tina Strining à Lausanne a ouvert la voie, etc. Des façons d'enseigner le violon qui sont pas purement ancrées dans la musique classique, mais voilà, qui vont puiser dans des musiques vivantes. Donc on essaye de transmettre des choses qu'on n'apprend pas forcément au conservatoire classique, notamment une certaine approche du rythme, de l'improvisation, le travail de l'oreille, tout ça avec le violon.
Puisque vous parlez de travail de l'oreille, etc., est-ce que le violon, c'est un bon instrument pour commencer la musique?
Oui, je pense que ça a de nombreuses vertus. Effectivement, ça oblige à travailler l'oreille d'emblée. Je remarque que tous les violonistes qui poursuivent le travail du violon après l'enfance ont une très bonne oreille mélodique. Donc ça, c'est sûr que ça développe énormément ça au niveau cognitif. Quand on est enfant, le cerveau il est très plastique, et puis le fait de devoir trouver ses marques sur un instrument où il n'y a pas de cases, ça c'est très très bon pour l'oreille. Après, peut-être que l'oreille harmonique, la reconnaissance des accords est moins développée que pour quelqu'un qui travaillerait avec le piano ou la guitare. Et puis ensuite, je pense que c'est un instrument qui est vraiment un maître fantastique pour la détente, parce que c'est tellement techniquement difficile qu'il faut absolument prendre conscience de son corps, etc. Au niveau moteur, c'est intéressant. Après, ce qui peut être plus difficile pour des enfants, c'est que ça peut être frustrant, parce que c'est pas très facile. Mais les enfants, quand même, se supportent bien. Et puis, on a des grosses lacunes rythmiques généralement dans le violon tel qu'il était enseigné dans le passé. Et ben voilà, on trouve des violonistes à l'âge adulte qui n'arrivent pas à taper des mains en rythme, et ça c'est quelque chose à quoi on essaye de remédier maintenant.
Alors vous parlez de l'enseignement du violon dans le passé, mais vous-même qui faites de nombreux styles de musique différents, est-ce que vous conseilleriez à des parents qui auraient des enfants à l'aube de leur vie musicale et qui commenceraient un instrument, le violon par exemple, de commencer par la musique classique, parce que j'imagine on voit ça comme un instrument classique, donc c'est logique de mettre ses enfants à la musique classique, mais vous savez, vous-même, hein, vous pratiquez de nombreuses musiques différentes avec le violon. Est-ce qu'il y a d'autres musiques qui seraient peut-être différentes, plus intéressantes pour un enfant qui vient de commencer le violon?
Je dirais pas plus intéressantes, je dirais autrement intéressantes. Finalement, je recommande à tout le monde de faire de la musique classique s'ils ont le temps, mais je conseille aussi de faire du yoga, du sport, du jazz et de la cuisine. Donc voilà, c'est aussi une histoire dans quoi on veut investir son temps. Le credo voilà, du type d'enseignement que je pratique, c'est de dire oui, on peut apprendre le violon à travers d'autres musiques que la musique classique. Il y a la matière qui est là, et voilà, ça j'y crois.
Alors on écoute tout de suite autre chose que de la musique classique avec du violon. C'est un morceau qui s'appelle Our Secret Room, et c'est de votre nouveau CD Nomadim.
Radio Cité Genève.
Thank you.
C'était Our Secret Room du CD Nomadim avec Mark Croft, violoniste, qui est notre invité aujourd'hui. On parlait d'intergénérationnel juste avant, on parlait de la pédagogie du violon, de la possibilité de faire de la musique classique, mais aussi de nombreux autres styles de musique différents pour des enfants qui peut-être commenceraient la musique. Comment ça se passe côté public? De quoi est constitué votre public?
Moi, je pense que le public pourrait être constitué de absolument des gens de toute classe sociale, de tous horizons et de tous âges, parce que je remarque que quand les gens sont exposés à la musique qu'on fait, ils réagissent très très positivement. Après, il se trouve qu'on est dans une économie de marché, donc les gens qui sont qui se pointent aux salles de concert, c'est plutôt le troisième âge. Voilà, donc c'est un peu ça, le public de la musique classique et du jazz aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelque chose que je déplore. Et puis je suis certain que si, quand on nous donne des tribunes où il y a des enfants, ils adorent. Il n'y a pas du tout de frontières générationnelles avec cette musique.
Mais là, vous parlez de jazz et de musique classique, mais quand vous faites de la musique klezmer, de la musique des Balkans, est-ce que le public est plus jeune ou bien il y a une plus grande diversité et plus d'équilibre dans les générations?
Je trouve qu'il y a quelque chose de très rigolo qui se passe, c'est que quand on met l'étiquette klezmer, alors que c'est une musique qui ressemble tellement, par exemple, à la musique roumaine, eh ben, on attire des gens plus âgés, souvent, et quelquefois, qui sont, qui ont vécu la Shoah et qui veulent penser à leurs ancêtres. Et puis, quand on met l'étiquette musique balkanique, on attire un public plus jeune, parce qu'il y a eu la mode, avec Emir Kusturica et Goran Bregovic, d'une certaine musique balkanique très festive, et donc les gens viennent pour danser, alors, quand on écrit balkanique. Alors, c'est rigolo, parce que finalement, c'est quasi la même musique.
Est-ce que vous pourriez pas inventer une étiquette qui mettrait les deux ensemble et ben donner envie à tout le monde?
Absolument. C'est ce que j'ai un peu essayé avec Nomadim. J'écris souvent jazz nomade pour que ce soit à la fois plus flou et plus invitant. Je sais pas si ça marche. Mais voilà, les étiquettes finalement, elles sont limitées, mais elles ont aussi le mérite de faire qu'on attire un certain public. Donc quand on dit festif, eh ben on sait qu'on attire des gens qui veulent danser, et puis après on doit faire danser les gens. Moi j'aime beaucoup faire ça aussi, mais voilà, aujourd'hui avec les projets dont on a parlé, c'est une musique plutôt pour les gens qui sont assis et qui écoutent. Donc voilà, faut avoir envie de ça.
Mais je vous connais aussi dans des musiques très festives, très dansantes, avec des percussions. Est-ce que là, c'est un public plus jeune? Est-ce que ça, on danse beaucoup à vos concerts?
Oui, absolument. Donc, je joue aussi avec un groupe qui s'appelle Gypsum Five et puis le groupe de musique balkanique Gilgul. Et avec ces ensembles-là, c'est vraiment des concerts très dansants. Voilà, ouais, vraiment beaucoup plus festifs, ça c'est sûr. Ouais.
Vous m'en voudrez peut-être pour cette question, mais votre musique qui est beaucoup improvisée, est-ce que vous adaptez vos improvisations en fonction du public qui est en face?
Bien sûr, ouais, bien sûr. À l'époque, je jouais dans un groupe de swing qui s'appelait Swing High, et puis on a joué beaucoup pour les danseurs de l'indie hop. Et puis ils font un truc génial, les danseurs, c'est qu'ils disent chim cham, et ensuite tout le monde fait une chorégraphie ensemble. Alors moi, j'adorais dire chim cham avant mon solo parce que je savais qu'ensuite j'allais pouvoir jouer pendant que tout le monde faisait la chorégraphie. Et puis même il y a des moments où ils se créent un cercle et puis les danseurs viennent tour à tour danser. Donc là, si on est en train de faire un solo, on joue différemment parce qu'on veut souligner la danse. Donc on va pas faire des phrases pas possibles, on va faire attention à faire des choses très rythmiques, à développer des motifs, etc. Et ça c'est hyper plaisant. Dans le flamenco, il y a aussi l'interaction avec la danse. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc ça, c'est clair que selon le contexte, on change le type d'improvisation, ouais, c'est sûr.
On a beaucoup parlé d'intergénérationnel, on a parlé des gens qui vous ont inspiré. Dans ce CD Nomadim, il y a une collaboration avec un accordéoniste manouche légendaire qui s'appelle Marcel Leffler. Est-ce que vous voulez nous en parler?
Oui, Marcel, c'est un accordéoniste que j'adore, dont j'avais pas mal écouté la discographie avant de le rencontrer. C'est quelqu'un qui a un jeu très personnel. il a eu l'accordéon dans les mains quand il était très très jeune, et puis du coup il a voilà, quelque chose d'extrêmement personnel. Il a fait beaucoup dans sa jeunesse les balles, donc ça lui donne un type de phrasé très groove, si on veut, ça swing, on dit laid back, il joue en arrière dans le temps, et ça fait danser, voilà, il fait naturellement danser. Et puis, c'est quelqu'un qui vient qui a vécu une autre approche du jazz, aussi un peu comme Rilo, dans la famille, avec une certaine tradition derrière. Ça s'entend dans le jeu. Je trouve toujours passionnant de jouer avec lui, et la composition qu'on a interprété avec lui sur l'album, La Goulue, c'est une composition que j'avais écrite avec son accordéon dans la tête. Donc là, de nouveau, spécifiquement pour lui, et ça a été vraiment un rêve qui se réalisait, qu'il puisse venir l'interpréter avec nous dans le studio, et puis voilà, c'était très fascinant, quoi.
Et c'est qui cette Goulue, alors ?
La Goulue, c'est ma nièce. Quand elle était en bas âge, elle tétait, et ma sœur a dit « Qu'est-ce qu'elle est goulue ?» Elle me dit que c'était vraiment un très très bon nom pour une valse musette, aussi parce que je pensais à Toulouse-Lautrec et le fameux poster « La Goulue », et je trouve que l'adjectif est tellement rigolo. Alors voilà, du coup, valse musette post-moderne, « La Goulue ».
Alors on écoute tout de suite cette valse musette, « La Goulue », avec Marcel Lefleur et l'ensemble Nomadim.
Thank you.
C'était un morceau qui s'appelle La Goulue, avec l'ensemble Nomadim, en collaboration avec l'accordéoniste Marcel Leflair. Mark Croft, violoniste, vous êtes notre invité aujourd'hui, vous présentez ce CD Nomadim. Alors moi, personnellement, j'ai adoré les extraits de votre CD, ce dernier morceau, La Goulue, avec ses harmonies, ses mélodies aussi suaves. Où est-ce que je peux l'acheter, votre CD? Où est-ce que je peux me le procurer?
Alors, il sera sur toutes les plateformes disponibles à partir du 5 mars. Pour l'instant, il y a deux singles qui sont déjà disponibles, donc Spotify, iTunes, YouTube, Deezer. Et puis, vous pouvez le commander chez votre disquaire, il sera distribué comme ça. Et puis, vous pouvez aussi le précommander déjà sur mon site markcroftstoutattaché.com. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Hein, ouais. Ah, il faut venir au concert, voilà. Dès qu'il y aura des concerts, on pourra l'acheter au concert. C'est ça le but à la fin quand même.
Et il y a des concerts prévus, enfin.
Alors il y a plein de concerts prévus et annulés, et il y a des concerts qui sont pas encore annulés, peut-être qu'ils le seront. Donc le prochain concert qui n'est pas annulé, c'est le 28 mars à Courcelles, KVO. Ensuite on en a un fin avril qui n'est pas annulé aussi à Neuchâtel, et puis un fin mai à Jazz Station à Sierre qui n'est pas encore annulé. Et puis ensuite plein de concerts reportés. Donc j'espère qu'ils vont être reportés à cet été, mais là je peux rien garantir. Faut de nouveau suivre soit sur la page Facebook de Nomadim, soit sur mon site web les dates. Voilà.
Voilà. Donc on enjoint le public à rester informé, à rester flexible aussi pour pouvoir continuer à profiter de la belle musique qui est préparé pour vous. Mark Croft, vous n'échapperez pas à la question qui tue. Au fond, est-ce que vous rêvez d'être le prochain Stéphane Grappelli?
Ah, alors là, Stéphane Grappelli, j'adore, hein, depuis l'enfance, j'ai toujours adoré, c'est vraiment un instrumentiste fascinant. Mais non, j'espère être le premier Mark Croft plutôt que le prochain Stephen Grappelli. Et puis, alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais de toute façon, voilà, c'est un géant, Stephen Grappelli. Je veux dire, voilà, on est. Est-ce que vous, François-Xavier Poisat, vous souhaitez être le prochain Glenn Gould?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on écoute tout de suite notre dernier extrait de cette émission. C'est un morceau qui s'appelle Eastern World Trip. Vous avez beaucoup parlé de vos voyages en Europe de l'Est, à quel point ces rencontres et ces voyages vous ont influencé votre musique, et ça s'entend beaucoup dans le CD Nomadim que vous êtes venu présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Mark Croft, d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci à vous pour l'invitation, François-Xavier Poisat.
C'était l'émission Entre les âges sur Radio Cité. Merci beaucoup à Olivier Steinmetz pour la production. Et à bientôt sur Radio Cité.
Émission Entre les âges. Thank you.